France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
C'est des femmes qui étaient à l'armée. Moi, je parle pas des maréchales, non plus que des grues promenées par le prince d'Essling et quelques autres.
Oh, elle parle sans doute des vivandières.
Point que des vivandières, monsieur. Des femmes soldats aussi. De celles qui poursuivent leur mari parce qu'elles avaient la tripe bien française, se sont déguisées en hussards ou en grenadiers. Et aussi, c'est vrai, des cantinières. Et je vous raconterai bien l'histoire de l'une d'entre elles.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. C'est toujours une satisfaction singulière dans notre corporation historienne que de mettre à jour un sujet, un personnage, une population que la recherche savante a négligé jusqu'à présent. Marion Trévisi, qui est professeure à l'université de Picardie Jules Verne, en témoigne brillamment en nous offrant un livre consacré, c'est son titre, aux suiveuses de guerre. Il s'agit de ces femmes nombreuses qui, à l'époque moderne et jusqu'à la fin de la période napoléonienne, ont accompagné les armées en campagne. Des femmes qui ont dû s'adapter dans cette situation spécifique aux règles imposées à leur sexe, autrement dit, selon un vocabulaire contemporain, aux normes de genre de leur temps. Le récit ordinaire des guerres qui n'ont pas cessé de ravager l'Europe les a longtemps laissées invisibles, à moins qu'elles ne passent en silhouettes à peine esquissées et éventuellement mythifiées. Cantinières, vivandières, blanchisseuses, prostituées ou compagnes des soldats. En fermant l'ouvrage de Marion Trévisi, on se persuade que cette occultation était bien regrettable. Mon invité, en effet, démontre avec pertinence et densité que restituer leur rôle à toutes ces femmes disparues, ce n'est pas seulement leur faire justice collectivement ou parmi la dispersion des itinéraires individuels, c'est aussi élargir le regard, non seulement sur les formes et les ressorts de la guerre dans ces temps-là, mais sur l'équilibre entier d'une société qui la portait. En une époque, la nôtre, où l'on entend partout des bruits de bottes et où les armées occidentales recrutent dans leur sein de plus en plus de femmes sous l'uniforme, je gage que ce recul devrait nourrir, selon la vocation de cette émission, quelques réflexions originales sur les continuités et les mutations dans les affrontements où les humains n'ont jamais cessé de s'entretuer. Et pour ouvrir notre propos, je vous offre cette restitution d'un extrait de la Chartreuse de Parme de Stendhal. Vous savez que Fabrice Del Dongo arrive à Waterloo, une bataille d'ailleurs qu'il voit de loin, et il rencontre une cantinière.
On était à la veille de la bataille de Waterloo. Sur le midi, la pluie averse continuant toujours. Fabrice entendit le bruit du canon. Il marcha jusqu'à la nuit avancée. Une heure avant le jour, le lendemain, Fabrice était sur la route et à force de caresses, il était parvenu à faire prendre le trot à son cheval. Bientôt, il se heurta à la charrette d'une cantinière qui suivait l'armée de fort loin.
Voilà, laissez-moi passer.
Tu serais aussi bien de pas te presser, mon petit soldat. Faut absolument que tu viennes avec moi.
Non, je veux me battre.
Tu te battras aussi, aujourd'hui il y en a pour tout le monde.
Quand serons-nous arrivés?
Dans un quart d'heure, tout au plus. On commence à distinguer les feux du peloton. Tiens, regarde.
Quoi donc?
Un cadavre, le premier. Allez, approche. T'as pas peur, au moins?
Non. Il est horrible.
T'en verras d'autres, tu sais, beaucoup d'autres d'ici un moment. Mais tu vas pas tourner de l'œil, au moins. Hey, tiens, bois un coup. T'as quel âge?
17.
D'où est-ce que tu viens?
Je me suis enfui de chez moi, je voulais me battre.
T'as pas la figure d'un de chez nous? Je suis cantinière depuis 10 ans, j'ai vu toutes les batailles. Et d'où viens-tu?
Je suis italien, je m'appelle Fabrice Del Dongo.
T'aurais pu rester dans ton pays et tu viens de faire casser les os pour l'empereur et tu fous.
J'admire l'empereur depuis que je l'ai vu en Italie.
Oui, souhaitons la victoire. Mais on dit que les Prussiens sont forts, les Anglais aussi.
Vous ne croyez pas à la victoire?
Oh, on sait plus ce qu'il faut penser.
Adieu, je vais essayer de me mêler aux soldats qui passent dans la plaine. Ils me prendront peut-être pour un des leurs, je sais monter à cheval aussi bien que n'importe quel officier.
Allez, va vite et sois prudent. On se retrouvera peut-être bientôt, petit soldat, si tu ne fais pas tuer. Le pauvre gosse, il va se faire tuer avant qu'il soit bien loin. Il sait pas ce qu'il attend.
Marion Trévisy, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé là une adaptation, un extrait d'une adaptation radiophonique de La Chartreuse de Parme par Jacques Lecour, d'après Stendhal, naturellement, un livre qui est paru, on le rappelle, en 1839, par le Club d'essai de la radiodiffusion française le 11 juillet 1946, avec Roger Rudel dans le rôle de Fabrice et Charlotte Clasis dans le rôle de la cantinière. Vous retrouvez là un dialogue qui vous paraît plausible?
Ah oui, tout à fait vraisemblable et plausible pour l'époque que j'ai étudiée, de le Premier Empire. Et en effet, cette cantinière est assez prudente vis-à-vis de Fabrice. Elle essaie de l'avertir des dangers de la guerre, puisqu'il semble bien innocent et bien inconscient de cette guerre. Elle a roulé sa bosse, comme on pourrait dire pour les cantinières, puisqu'elle lui dit que ça fait 10 ans qu'elle fait partie des armées de l'Empire. Donc elle en a connu des batailles et elle sait très bien à quel niveau il faut se situer pour ne pas prendre un boulet, puisque l'artillerie s'est énormément développée à cette époque-là.
Est-ce que le fait que nos armées soient devenues récemment, avec un essor particulier au XXIe siècle, féminisées, a pu jouer pour susciter, pour être en ressort de votre curiosité? Car nous savons que désormais la France, après Israël, la Hongrie et les États-Unis, est le pays où il y a le plus de femmes sous l'uniforme.
Oui, l'armée française s'est féminisée beaucoup au XXe siècle et au XXIe siècle. Et c'est en effet en lisant des témoignages de militaires femmes actuelles que mon goût pour l'expérience de guerre féminine s'est développé. Donc je suis allée dans mes périodes plus antérieures, le XVIIIe siècle, et j'ai essayé de retrouver ces femmes à la guerre, ces expériences féminines de la guerre, en lisant d'autres historiens et puis en me penchant sur le cas de ces femmes qui suivaient les armées, qui semblent avoir existé depuis très longtemps, au moins depuis le Moyen-Âge, et qui étaient totalement inconnues des historiens ou très peu développées, quelques lignes dans quelques livres, mais de manière vraiment anecdotique.
Inconnues parce qu'il y a un problème de source, nous connaissons cela, nous autres historiens, le risque que l'on ne parle pas d'un sujet parce qu'on y accède plus difficilement. Or, vous avez largement, dans votre ouvrage, tourné cet obstacle.
J'ai essayé, en tout cas, mais c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver les sources. Les historiens du militaire, quand je leur disais que je voulais travailler sur les femmes à la guerre, combattantes ou suiveuses, me disaient de leur auteur « tu ne trouveras rien, il n'y a rien voilà. ». Donc j'ai essayé et j'ai trouvé. Je pense qu'en histoire des femmes, il faut changer la focale et c'est ce que j'ai essayé de faire en reprenant des mémoires, évidemment.
Vous utilisez beaucoup les mémoires de combattants et d'ailleurs, on découvre en vous lisant à quel point cette littérature est profuse.
Ah, c'est une littérature exceptionnelle. L'historienne Nathalie Petitot a beaucoup travaillé déjà sur ces mémoires, mais pas sur les sujets qui m'intéressaient.
Vous voulez dire l'historienne spécialiste de la mémoire de Napoléon?
Oui, tout à fait. Et j'ai lu une centaine de mémoires, je ne les ai plus comptées à la fin, d'anciens soldats, officiers, sous-officiers, donc du XVIIIe siècle, mais surtout de la fin du XVIIIe siècle, l'époque révolutionnaire, et puis le Premier Empire, puisqu'ils étaient des soldats beaucoup plus alphabétisés qu'au XVIIe ou début du XVIIIe siècle, et ils ont suivi cette mode de publication de leurs mémoires, de leurs souvenirs, pendant toute la première moitié du XIXe siècle.
C'est une source magnifique, y compris d'ailleurs de soldats qui ne sont pas au sommet de la hiérarchie, le fameux capitaine Coignet notamment.
Oui, le capitaine Coignet, le sergent Bourgogne, qui sont très connus, mais il y en a beaucoup d'autres, des petits officiers ou même quelques soldats. Jean Conant, c'est un soldat de l'armée révolutionnaire qui a son style assez brutal et qui dit avec sincérité et même un réalisme parfois un petit peu surprenant, toutes les atrocités commises pendant la guerre en 1794 notamment, il ne cache pas tous les méfaits qu'il a faits, et notamment des viols de femmes, des pillages de villages. Donc on découvre sous la plume de ces soldats finalement des faits que l'on pensait ne pas pouvoir trouver au premier abord.
La plupart de ces femmes dont vous parlez n'ont pas laissé, elles, de mémoire, de traces. Beaucoup ne savent même pas écrire.
Malheureusement, en effet, nous avons très peu des documents qui viennent des femmes. Une dizaine, j'en ai lu à peu près une dizaine, par rapport à la centaine de mémoires de soldats. Donc, il faut lire les mots des hommes pour retrouver les femmes dans les interstices de leur narration. Et c'était toute la difficulté de ce travail. Il y a aussi d'autres sources aux archives historiques de la guerre à Vincennes, qui sont des dossiers de demande de pension ou de gratification faites par des anciennes cantinières qui demandent au ministère de la guerre la reconnaissance de leur service ou une pension de veuve de soldat. Donc ce sont d'autres sources assez intéressantes pour la vie quotidienne de ces femmes, même si leur trajet, leur destin est moins développé que dans les mémoires.
C'est une façon aussi d'évoquer la manière dont la société a reconnu leur service, leur apport, ou ne l'a pas fait.
Eh bien, souvent, elle ne le fait pas. La société ne reconnaît pas leur service. Au mieux, elles obtiennent des pensions de veuves de soldats. Mais qu'elles aient été cantinières ou blanchisseuses pendant 14 ou 15 ans ne sert strictement à rien auprès du ministère de la guerre pour obtenir une gratification financière.
Alors, venons-en maintenant à cette présence féminine aux armées depuis, disons, le XVIIe siècle jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes. C'est votre champ d'étude.
Quand on essaie de faire une typologie, on trouve différentes sortes de femmes. Il y a les épouses de soldats qui suivent la solde et qui tentent donc de, elles aussi, trouver un petit métier militaire pour survivre et compléter la solde de leur mari. C'est souvent ces femmes-là qui deviennent les cantinières ou vivandières des armées. Nous trouvons aussi les femmes des employés, parce que l'armée est suivie par un grand nombre d'employés civils, les cordonniers, les boulangers, beaucoup d'artisans qui partent parfois avec leurs femmes. Les femmes des musiciens, nous trouvons aussi les prostituées. Certaines d'entre elles suivent les armées pour faire leur commerce avec les soldats. Et les catégories sont poreuses entre tous ces types de femmes. Elles sont perméables. Une prostituée peut devenir la femme d'un soldat et la cantinière du régiment et donc changer de statut. Donc il n'y a pas de frontière fixe dans toutes ces femmes qui suivent. Et puis nous connaissons aussi, mais là d'un autre niveau social, les femmes des grands officiers, notamment de la grande armée napoléonienne, qui venaient dans les villes de garnison pour installer des cours ou faire même des fêtes. Et installer une sorte de sociabilité de guerre.
Il faut imaginer une sorte de communauté militaire qui dépasse assez largement le monde strict des soldats et des officiers.
Tout à fait. Elles font partie de cette communauté du régiment. Elles ont le même état d'esprit. Elles ont les codes militaires, notamment pour les cantinières. D'autant plus qu'elles sont souvent nées aux armées. Vivandières et cantinières ou blanchisseuses sont souvent des filles de soldats ou des femmes de soldats.
Donc, dynastie, c'est une chose qui surprend quand
on
vous
dit. Oui, il y a des généalogies de cantinières. Certaines font jusqu'à 40 ans de carrière et transmettent leur métier à leurs filles, alors que leurs garçons deviennent très rapidement enfants de troupes, puis soldats.
Cette présence a été acceptée, encouragée, et dans d'autres cas, évidemment, refusée, blâmée. Simplement une citation qui est due au grand Carnot. Au moment de la Convention, en avril 1793, il parle d'un fléau terrible qui détruit nos armées. C'est le troupeau de femmes et de filles qui sont à leur suite. Les casernes et les cantonnements en sont engorgés. La dissolution des mœurs y est à son comble. Ces femmes énervent les troupes et détruisent par les maladies qu'elles y apportent 10 fois plus de monde que le feu des ennemis.
Oui, Carnot est très dur avec toutes ces femmes qui suivent les armées. On est au printemps 1793, juste avant le décret du 30 avril 1793 qui exclut toutes les femmes des armées. Alors pour comprendre cette citation, il faut recontextualiser un petit peu. En fait, les soldats ont le droit depuis 1793 de se marier sans l'autorisation de leurs officiers.
C'était absolument refusé sous l'Ancien Régime.
Sous l'Ancien Régime, c'était les officiers qui décidaient du mariage ou non de leurs hommes, et le plus souvent, le mariage mariage leur était interdit.
Aujourd'hui encore, je crois que les officiers doivent demander la permission de l'autorité militaire pour se marier.
Je ne sais pas, je vous avoue, mais c'est fort probable. Sous l'Ancien Régime, c'était totalement interdit. Et à partir de 1791, on laisse le droit aux soldats de se faire suivre par leurs femmes. Et à partir de 1793, début 93, ils ont le droit de se marier sans autorisation. Du coup, l'armée révolutionnaire était infestée d'une population féminine qui prenait beaucoup de place dans les casernes, qui gênait les mouvements, d'où la diatribe de Carnot contre elle.
C'est vous qui reprenez le mot infesté,
oui.
Après.
Non, c'est les militaires de l'époque, mais je me l'approprie.
Je voudrais donner présence à un exemple à la rencontre de la réalité de la fiction et de la littérature en vous faisant écouter un extrait de la pièce très fameuse de Bertolt Brecht qui s'appelle « Mère Courage, chronique de la guerre de 30 ans », une pièce qui est ici mise en scène par Jacques Mauclair avec Hélène Duc, grande résistante. Avec Hélène Duc, c'est une retransmission sur Paris Inter, le 18 août 1961. Rappelez-nous la nature de cette intrigue.
Mère Courage, c'est la pièce de Brecht est inspirée par le texte de Grimmelshausen de 1670 qui raconte les aventures de Simplicis Mus, et dans ces aventures, il y a une cantinière qui s'appelle Mère Courage, et c'est une cantinière pendant la guerre de 30 ans. Alors Bertolt Brecht reprend ce personnage et l'adapte dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale pour montrer les dangers de la guerre notamment et ce que ça peut faire subir aux femmes et aux enfants.
Écoutons Mère Courage.
La Mère Courage et sa fille muette Catherine sont assises sur la carriole.
Entrez vos papiers.
Nos papiers.
Mais c'est la Mère Courage, vous le voyez bien.
Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Courage ?
On l'appelle Courage parce qu'elle a eu peur de perdre son bien.
Et qu'elle a traversé le feu des canons de Riga avec 50 de miches de pain dans sa roulotte.
Fin d'histoire sur tes papiers. Ton nom ?
Anna Firling.
Bien. Alors tout ça, c'est des Firling.
Pourquoi ? Moi, je m'appelle Firling, pas eux.
Vous croyez que c'était tes enfants ?
Parfaitement. Mais j'ai une raison pour qu'ils aient tous le même nom. Lui, par exemple, il s'appelle Elif Nojoki. C'est que son père a toujours prétendu s'appeler quelque chose comme Nojoki ou Kojoni. Elif se souvient de lui, allez, seulement c'est d'un autre qui se souvient, d'un Français à barbiche. À part ça, le petit a l'intelligence de son père, un gaillard rusé, capable de vous déculoter un paysan sans qu'il s'en aperçoive. Pour les autres, c'est pareil, chacun de nous a son nom.
Hein, tous des noms différents.
Faites donc pas l'innocent.
Mais alors celui-là...
C'est un Suisse.
Qui est venu après le Français.
Après le Français, quel Français? Il n'y a pas eu de Français. J'ai dit un Suisse, mais son nom c'est Féjos. Le père s'appelait pas du tout comme ça. Il travaillait à la construction des forts, un buveur par exemple.
Mais comment ça se fait que ce garçon s'appelle Féjos ?
Je voudrais pas vous vexer, mais c'est pas l'imagination qui vous étouffe, hein ? Quand mon Féjos est venu au monde, j'étais avec un Hongrois. Pauvre homme, ça lui était bien égal que je sois grosse, il s'en allait du foie. Dieu sait pourtant qu'il avait jamais tâté à l'alcool. Un honnête homme.
Mais ce n'était pas son père.
Eh ben n'empêche, c'est lui tout craché. Je l'appelle Petit Suisse. Celle-là, elle s'appelle Catherine Haute. Elle est à moitié allemande.
Ben vrai, une jolie famille.
Oui, j'ai fait le tour du monde avec ma roulotte.
Plusieurs choses dans ce regard ultérieur. On est en 1941, en fait, quand la pièce est jouée pour la première fois, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Marion Trévisy, cette affaire de patente, comment être repérée, fixée par les autorités ?
Oui, sous la Révolution française et l'Empire, toutes les cantinières et suiveuses des armées doivent avoir des papiers sous forme de patente. Donc, ce sont des archives que nous retrouvons aux archives de la guerre, où leur nom est inscrit, mais aussi un numéro et la description physique de la vivandière cantinière pour éviter que sa place soit prise par une autre. Outre la patente, on leur fournit aussi une sorte de médaille en métal qu'elles doivent avoir sur elles avec leur numéro qui leur donne accès à la suite des armées. Donc elles n'étaient pas employées par l'armée, elles n'étaient pas rémunérées, mais cette autorisation était marquée par la médaille et la patente.
On parle de l'Ancien Régime là ?
On parle de la fin de l'Ancien Régime, mais aussi des armées révolutionnaires et de l'Empire.
L'autre chose qui frappe à l'écoute de cet extrait, c'est tous ces petits-enfants de pères différents.
Oui, les cantinières sont en effet décrites comme des femmes avec une sexualité libérée. Elles ont plusieurs maris à la mode de l'armée et elles font des enfants avec divers soldats. Les mariages sont rarement des mariages légitimes, c'est plutôt une sorte de concubinage. On parle dans les mémoires de mariage à la mode de l'armée. Et du coup, ces femmes, quand leurs soldats décèdent, ce qui est assez fréquent dans le cadre de la guerre, elles changent de mari, elles changent de soldat assez rapidement, puisqu'elles ne peuvent pas rester veuves très longtemps. Veuve, c'est un statut qui peut leur attirer des problèmes, notamment une forme de harcèlement par les autres hommes. Et donc, il faut que très rapidement, elles se trouvent un protecteur. Aussi bien pour les institutions militaires, les autorités militaires préfèrent que ces femmes soient sous le contrôle d'un homme, d'un mari ou d'un amant, peu importe le statut légal, mais elles ne doivent pas rester seules.
Toujours l'idée du contrôle.
Oui, parce que ces femmes sont tolérées, mais officiellement, elles ne font pas partie de l'armée. C'est une tolérance. Il ne faut pas qu'elles soient gênantes, qu'elles embarrassent l'armée et qu'elles créent des problèmes, notamment des problèmes dus à leur sexualité. On peut accuser très rapidement les cantinières d'être responsables des maladies vénériennes des soldats. D'ailleurs, les généraux de Napoléon décident souvent de faire des contrôles médicaux des cantinières pour être sûrs qu'elles ne sont pas porteuses de maladies pour leurs soldats.
C'est toujours un peu ambivalent parce que les généraux souhaitent aussi donner l'occasion aux soldats d'exercer leur sexualité pour éviter notamment le viol parmi les populations que l'on domine désormais. Il est intéressant de savoir que le général Bonaparte, au moment des guerres d'Italie, avait déclaré qu'il punirait les soldats qui pilleraient et qui violeraient.
Oui, le viol, le pillage sont interdits dans les armées, déjà par le code pénal qui s'applique. Et puis dès 1796, le viol est totalement interdit. Et Bonaparte, en effet, a souligné cela pendant la campagne d'Italie. Il n'empêche que ces femmes, les cantinières, ne sont pas censées être les prostituées de l'armée. Elles doivent avoir un comportement honnête et ne pas entraîner une certaine débauche. Et les autorités militaires restent dans la contradiction, l'ambivalence, si vous le souhaitez, puisqu'elles ont besoin de ces femmes et en même temps, elles s'en méfient. Ce qu'on voit, c'est quand les soldats arrivent dans une ville, évidemment, ils cherchent les prostituées de la ville. Mais rarement, ce sont les cantinières qui servent de défouloir pour une sexualité du repos du guerrier. On ne le trouve pas dans les mémoires. Elles n'ont aucun intérêt à être comparées à des prostituées, puisque les prostituées sont expulsées. Donc, si elles veulent rester à la suite des armées, il faut qu'elles aient un protecteur, une sexualité plus ou moins officielle et qu'elle ne dépasse pas, qu'elle n'entraîne pas des dérapages avec les soldats.
Il y a tous ces petits-enfants, notamment les garçons, qui vont devenir des enfants-soldats.
Les enfants de la troupe, oui, elles sont souvent enceintes et elles accouchent beaucoup dans les mémoires de soldats. On trouve des exemples d'accouchement un peu partout.
Au cœur des batailles, parfois, presque.
Au cœur des batailles, devant les ponts de la Bérézina, à Leipzig, on trouve des exemples d'accouchement décrits par les soldats dans leur mémoire. Tous ces enfants, il y aurait une autre thèse à faire sur les enfants de troupe. Et ces enfants de troupe sont un peu les oubliés, les deuxièmes oubliés de toute cette histoire, garçons comme filles. Alors sur les garçons, on a un peu plus d'informations, puisqu'ils deviennent enfants de troupe, alors d'abord trompettes et puis ensuite soldats. En tout cas, pour les filles, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent, à part certaines qui suivent le modèle de leur mère et qui sont elles aussi cantinières.
Leurs problèmes quotidiens, vous les restituez aussi, je veux dire comment se loger, comment voyager comme femme de soldat ou éventuellement comme femme d'officier.
Alors, les femmes d'officiers avaient des conditions de transport meilleures que celles des cantinières ou des simples femmes de soldats. Pour les femmes de soldats, elles marchent. Elles font comme les grognards de Napoléon, sans grogner. Elles marchent à l'arrière des troupes le plus souvent. Elles ne doivent pas gêner la marche du convoi militaire. Donc, elles sont situées avec les bagages à l'arrière. Soit elles ont quelques chariots pour les plus chanceuses d'entre elles, ou un âne, ou un cheval dit trouvé, c'est-à-dire le plus souvent pillé, évidemment. Et sinon, les autres sont à pied. Et donc, c'est des conditions de transport assez compliquées, dans la boue, dans le froid, dans la poussière. C'est des vies de femmes errantes, un peu comme les soldats. Les soldats de la Grande Armée ont beaucoup marché, ils sont allés très loin, jusqu'en Russie, et les femmes ont suivi.
Vous citez Alexandre-Louis Andreau de Langeron, ses mémoires. Je le disais tout à l'heure, vous êtes très attentive à ce que nous apportent les mémoires des contemporains. Général d'infanterie dans l'armée russe, c'était un exilé, et qui parle à un moment donné des femmes entravant la marche des armées d'une façon impressionnante. Il dit, c'est à propos de la bataille de Markersdorf au moment de la campagne de 1813. La retraite fut un moment obstruée par une foule de chariots prussiens, surchargés de toutes ces immondes créatures dont l'armée prussienne est infestée. Il y avait plus de 200 femmes sur ces chariots qui auraient dû depuis longtemps s'être retirées. Elles poussaient des cris atroces et voulaient passer avant nos troupes. On les fit rester de force sur la rive gauche et quand nos gens eurent passé, on fit brûler le pont de bois et lever les autres et toutes ces dames allèrent charmer les loisirs des Français. Ça, c'est le pire des regards que l'on trouve. Il y en a d'autres qui sont plus attentifs et non seulement indulgents, mais presque affectueux.
Le comte de Langeron crée la légende noire des cantinières. Il les déteste. Il décrit les cantinières de l'armée prussienne et il souligne que dans l'armée russe, les Russes ont le bon goût de ne pas avoir de suiveuses et de femmes à la suite des armées. Oui, donc il est prêt à faire brûler un pont plutôt que de les laisser passer. Il y a même certains généraux qui avouent les faire tomber dans le fleuve pour s'en débarrasser de manière brutale. Donc, le plus souvent, les grands officiers ont des mots très durs contre les cantinières. C'est vraiment le portrait obscur des cantinières qu'on a sous la plume de ces grands officiers, alors que quand on prend le témoignage de simples soldats ou de petits officiers, ils sont plutôt dans l'empathie avec ces femmes. Et on voit qu'elles sont globalement assez bien intégrées à la communauté militaire, contrairement à ce que disent les autorités.
C'est cela, me semble-t-il, qui est reflété dans une chanson fameuse du grand chansonnier Béranger, auquel nous avions naguère consacré une émission, une chanson de 1813 qui s'appelle précisément « La Vivandière », interprétée ici par Manon Landowski en 2010. Écoutons Béranger, écoutons sa Vivandière.
La vivandière du régiment, c'est Catin qu'on me nomme. Je vends, je donne et bois gaiement mon vin et mon rogom. J'ai le pied leste et l'œil mutin, j'ai le pied leste et l'œil mutin, soldat, voilà Catin. Je fus cher à tous nos héros, hélas combien j'en pleure. Aussi soldats et généraux me comblaient à toute heure d'amour, de gloire et de butin. D'amour, de gloire et de butin, soldat, voilà Catin. C'est des amours, c'était le temps prospère. À Rome, je passais 8 jours, et de notre Saint-Père, je débauchais le sacristain. Je débauchais le sacristain, soldat, voilà Catin.
Voilà Catin, ça n'est pas négatif en fait, Marion Trévisy, dans cette chanson. C'est déjà assez tendre, je dis déjà parce qu'ensuite Béranger contribuera à la légende napoléonienne, comme on le sait. Cette femme qui a débauché le sacristain du Saint-Père s'est dit avec presque avec affection.
Oui, chez Béranger, il y a une certaine tendresse dans le mot catin. Mais il faut savoir que le mot catin a été très employé à propos des cantinières. Il y a d'autres témoignages, d'autres mémoires où les soldats, quand ils voient arriver la maîtresse de Masséna, ils l'appellent la poule à Masséna ou la catin.
Ah oui, il folichonnait comme un adolescent, dit l'un des témoins.
Oui, avec Eugénie Renick, sa maîtresse pendant 10 ans quand même. Donc, ce n'était pas simplement un amour léger et temporaire. Il est resté plus de 10 ans avec cette maîtresse.
Est-ce que je me trompe si je dis qu'il lui a légué en plus beaucoup d'argent?
Non, vous ne vous trompez pas. En effet, à sa mort, dans son testament, il va léguer énormément d'argent. Donc, elle a été très critiquée par les autres généraux, et notamment au Portugal en 1812-1813, pendant cette campagne d'Espagne de Portugal, à la fin, en tout cas quand tout se passe mal, on a accusé Masséna de retarder l'armée à cause d'Eugénie. Et on a dit qu'à ce moment-là, c'était un vieil homme qui folichonnait avec une jeune femme. Ça lui a été vraiment... marquer son image de manière très négative, alors qu'en fait, Masséna était déjà un vieil homme, malade, et c'est surtout pour ça que son commandement a été assez aléatoire à ce moment-là. Et sinon, dans cette chanson de Béranger, ce qui est intéressant aussi, c'est quand il parle du rogom. Le rogom, c'est l'alcool que les cantinières servaient aux soldats jusqu'aux premières lignes. Donc, c'est une sorte d'eau de vie mélangée avec on ne sait trop quoi. On appelle ça aussi le casse-poitrine, donc tout est signifiant hein, dans les mots ici. Les soldats préférer ces eaux de vie très fortes à du vin mélangé à de l'eau ou même à des bières. Et on attendait la cantinière jusqu'au début du front, jusqu'aux premières lignes, avec son petit tonnelet rempli de rogom ou d'eau de vie ou de gouttes, comme vous préférez.
Le tonnelet, c'est une sorte d'objet symbolique. Alors le tonnelet,
elle le porte en bandoulière. Oui, c'est là où elles mettent l'alcool pour servir sur les premières lignes, puisqu'à l'arrière, elles installent plutôt des huttes ou des tentes dans lesquelles elles servent du vin au tonneau ou à la bouteille. Mais le tonnelet, il est peint en bleu, blanc, rouge après la Révolution française. Et toute l'iconographie sur les cantinières du 19e siècle reprend ce petit tonnelet en bleu, blanc, rouge porté en bandoulière par ces femmes.
Bon, par définition, les vivandières devenues cantinières apportent de la nourriture plus variée, plus riche que celle que les autorités militaires peuvent proposer aux soldats. Mais elles ont d'autres rôles auprès de ces combattants. Parfois une sorte de tendresse. Un peu le comportement qu'on voyait tout à l'heure dans la citation de Stendhal.
Oui, on retrouve cela dans les mémoires de soldats, en effet, l'empathie que ces femmes ont eu envers les soldats blessés, notamment, puisque c'est souvent elles qui, sur leur chariot, récupèrent les blessés. Donc, certains officiers se souviennent avec tendresse et affection de ces femmes qui les ont aidées au moment des blessures. Et sinon, c'est aussi elles qui restaient près des soldats blessés, au devant, sous la mitraille, comme on disait à l'époque, et qui leur servaient un peu d'alcool, le temps d'attendre l'ambulance ou de pouvoir quitter les lignes de front pour retourner en arrière, se faire soigner.
Parmi toutes les citations précieuses que vous avez exhumées, Marion Trévisy, je vois celle-ci qui est extraite des mémoires du chevalier de Quincy lors de la bataille fameuse de Malplaquet en 1709. Il fait l'éloge de Mademoiselle Chevalier. Donnons-lui une petite place à cette Demoiselle Chevalier après vous. Il précise « fameuse et belle courtisane qui suivait l'armée ». Elle s'était emmourachée d'un officier du régiment. Elle le suivait partout. Malgré la canonnade de 3 jours et la bataille, elle resta constamment à nos drapeaux. On ne peut oublier sans ingratitude les services qu'elle rendit au régiment. Dès qu'un officier ou un soldat était blessé, elle le faisait transporter sur le champ et l'accompagnait jusqu'à l'endroit où était notre chirurgien-major. Ensuite, elle revenait au régiment. Elle nous sauva beaucoup de soldats. On est déjà dans la figure des infirmières, des femmes qui sont dévouées aux soldats de 14-18, par exemple.
Oui, les infirmières de guerre, alors elles n'apparaissent pas avant 14-18 hein, dans l'armée française. Mais vous voyez qu'en 1709, une cantinière prend son chariot pour aller chercher les soldats blessés et les ramener. Et d'ailleurs, cette mademoiselle Chevalier, nous avons très peu d'exemples hein, sur le début du 18e siècle. Cette mademoiselle Chevalier, elle a demandé ensuite au ministère de la guerre de se faire rembourser les prêts qu'elle avait faits aux officiers qui sont décédés sur le champ de bataille. Donc, elle ne perdait pas le nord. Hein. Elle a quand même suivi un petit peu son intérêt. Il fallait qu'elle rentre dans ses frais. Et donc, elle a demandé au ministère de la guerre qu'on lui rembourse tous les prêts qu'elle avait faits aux officiers.
Le métier d'usurier ou d'usurière, dans ces périodes, est difficile. C'est effectivement ceux qui sont en dette risquent de disparaître soudainement.
Voilà. La plupart des cantinières qui prêtaient aux soldats, ensuite, étaient, finalement, ne retrouvaient pas leurs gains. Hein. Elles prêtaient par une sorte de dévouement ou d'intérêts financiers, mais ce n'était pas le meilleur placement, en effet.
Ça se mélange, vous évoquez ces femmes qui ont su constituer sur le front des restaurants, des gargotes et qui en ont tiré profit.
Tout à fait, ce sont ces fameuses cantinières qui sont décrites par Elzéar Blas dans ses mémoires. Et pour lui, une cantinière peut devenir une femme d'affaires chevronnée et avec beaucoup d'argent. Il décrit des femmes qui font des carrières assez rapides et qui arrive à monter des vrais restaurants à l'arrière avec plusieurs dizaines de couverts pour les officiers. Les officiers aimaient bien se payer un petit festin chez la cantinière et le plus souvent, ils recherchaient des viandes un petit peu en sauce, en ragoût, ce qu'ils n'arrivaient pas à manger le reste du temps quand ils étaient dans les camps ou en première ligne.
Tout ce que vous nous dites fonde, explique cette ambivalence de l'image ou de la mémoire que l'on a pu avoir des cantinières. Certaines sont vues de façon très négative et d'autres au contraire très, très positives dans la littérature, dans la chanson.
Oui, dans toute la culture populaire, notamment au XIXe siècle, on va développer une forme de stéréotype autour des cantinières avec soit le côté mère sacrificielle, aimante, empathique, et soit l'autre côté, la face obscure, ce que j'appelle la face obscure dans le livre, c'est des femmes cupides, violentes, qui ne seraient uniquement intéressées que par le pillage et le recel de marchandises.
Et là, il y a une image négative qui est pérenne, à peu près autant que celle qui est attendrissante.
Les deux faces du portrait sont en effet pérennes. Cette image négative, on la retrouve surtout sous la plume des grands officiers, mais en effet, elle reste encore très longtemps.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Je voudrais maintenant que nous voyons plus concrètement encore la manière dont ces femmes ont vécu la guerre, une vie de peine et de misère, a dit quelqu'un.
C'est une citation du capitaine Coignet.
Que nous citions tout à l'heure.
Oui, que j'ai repris pour le titre d'un chapitre du livre. Il parle de vie de peine et de misère pour les soldats, mais en lisant tous ses mémoires, je me suis aperçue que les femmes aussi avaient une vie de peine et de misère. C'était des vies errantes, hein, sur les routes, dans les camps, dormir à la dure, au bivouac. Il faut savoir que l'armée française ne transporte plus de tentes à partir de la fin du XVIIIe siècle pour alléger les bagages. Du coup, les soldats dorment sur le sol, autour du feu, et les femmes aussi. À moins de pouvoir construire un camp en dur quand on est, par exemple, à Berlin ou dans une trêve, la plupart des cantinières, blanchisseuses, toutes ces auxiliaires de service, ont dormi comme les soldats, marché comme les soldats et subi les affres du climat comme les soldats.
Et naturellement, pendant la retraite de Russie, c'est particulièrement épouvantable. On a des citations, des souvenirs, ce que Victor Hugo exprimait dans son fameux poème.
Tout à fait, la retraite de Russie de octobre 1812 jusqu'à décembre 1812, les descriptions sont apocalyptiques. Les hommes tombaient littéralement, ils étaient congelés et Louise Fusil, une comédienne qui a fait la retraite de Moscou jusqu'à la France, parce qu'elle a quitté le théâtre de Moscou avec l'armée française, Louise Fusil se souvient encore dans ses mémoires, c'est un des rares textes féminins que nous avons, de tout ce sont des soldats qui tombent parce qu'ils sont gelés la nuit autour du feu. Elle entend plusieurs années après ce bruit qui reste dans son cerveau. Ça l'a marqué, hein, ce cri, ce bruit des soldats qui tombent.
Au fil de votre livre, qui naturellement considère les choses globalement comme il convient, Marion Trévisy, on voit surgir des personnages qui ont beaucoup de couleurs et de force. Par exemple, Marie Tête de Bois. Et je vais vous faire entendre la manière dont elle est décrite dans cet extrait de Napoléon et ses soldats. C'est une restitution par Alain Decaux et André Castelot dans leur fameuse tribune de l'histoire de France Inter en 1977. Écoutez donc ce texte.
C'est des femmes qui étaient à l'armée. Moi, je parle pas des maréchales, non plus que des grues promenées par le prince d'Essling et quelques autres.
Oh, elle parle sans doute des vivandières.
Point que des vivandières, monsieur. Des femmes soldats aussi. De celles qui poursuivent leur mari parce qu'elles avaient la tripe bien française, se sont déguisées en hussards ou en grenadiers. Et aussi, c'est vrai, des cantinières. Et je vous raconterai bien l'histoire de l'une d'entre elles. Nous autres, on l'appelait Marie Tête de Bois. Elle était née à Paris au temps du bien-aimé, en 1765. C'était une cantinière française. Paraît qu'elle était point très belle. Mais elle est épousée par un ancien tambour aux gardes françaises. Un de ceux qui avait servi avec monsieur le futur duc de Danzig, le premier duc nommé par Napoléon, et il avait quand même présenté les armes à Louis XVI le jour de son sacre à Reims. Son tambour, elle le suit à l'armée de Sambre-et-Meuse. Et c'est là qu'elle devient cantinière. À Maringo, où ça claque méchamment, elle s'arrête de donner à boire aux blessés. Car à quelques mètres de la ligne de feu, elle va mettre au monde un fils. L'enfant grandit à la compagnie et devient tambour, à 10 ans. Honneur suprême! Voilà que Marie Tête de Bois est admise dans la garde impériale. Quand elle fait pas le coup de feu, elle tend les gobelets à Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram. Marie Tête de Bois perd son mari à Montmirail. Et un mois après, son fils à la barrière de Clichy, où le vieux Moncey faisait des moulinets avec son grand sabre. Elle compte alors 16 campagnes. Elle a plus de famille. Il lui reste un dieu, Napoléon. À Waterloo, quand ça commence d'aller mal, elle quitte les rangs pour contempler longuement l'empereur. Puis s'en va distribuer de l'agneau aux blessés. À 8 heures, lorsque retentit le sauve-qui-peut, elle va s'enfermer dans le dernier carré. Une boîte à mitraille explose, brise son tonnelet, l'atteint au ventre. Alors elle crie « Vive la France !» Une balle la frappe au visage. Elle clame « Vive l'empereur !» À côté d'elle, j'y ai un mourant pas très galant.
Marie, vous êtes point belle comme ça.
Alors elle, là qu'elle répond « Possible, mais je peux me vanter d'être mère et veuve de troupier. »
C'est beau comme l'antique, Marion Trévisy. C'est en fait une adaptation d'un texte de Louis de Montigny.
Louis de Montigny a consacré un chapitre entier de ses souvenirs à Marie Tête de Bois, sa cantinière. Il la décrit comme une femme troupière, vulgaire, assez grossière, fumant la pipe, puant l'ail. Elle a vraiment un portrait totalement rocambolesque. Et sa mort est totalement théâtralisée, sa mort à Waterloo, comme vous venez de l'entendre. Louis de Montigny décrit toute la mort annoncée de Marie Tête de Bois à partir de la 19h. Jusqu'à sa mort vers minuit. Et il en fait vraiment un personnage de théâtre, puisque vous voyez que non seulement elle est blessée au ventre, mais ensuite elle prend une balle dans la tête, avec un grenadier qui lui dit qu'elle est laide à faire peur, qu'elle est défigurée par cette balle, et elle meurt en criant « Vive l'empereur !» et en se targuant d'être une femme, une fille et une veuve de troupier.
Peine et misère, vous nous donnez aussi, Marion Trévisy, des citations évoquant l'horrible calvaire des femmes au moment de la retraite de Russie, qui ont été en particulier souvent prises dans la glace, qui sont mortes en dirigeant vers le ciel leur nourrisson pour tâcher qu'ils survivent un peu.
Oui, vous décrivez le passage de la Bérézina en novembre 1812, où les mémorialistes décrivent des scènes apocalyptiques avec des femmes dont les jambes sont prises dans le fleuve glacé, qui tombent des ponts ou qui sont même poussées par les soldats pour qu'ils puissent passer. C'est la panique le 29 novembre au matin, hein, quand on supprime tous les ponts. Tous ceux qui ne sont pas passés essaient de passer dans le fleuve et se noient au milieu des glaçons, comme des sont décrits par les mémorialistes, avec des femmes. Le général Ségur décrit une femme qui tend son bébé pour qu'on sauve l'enfant. D'autres mémorialistes, comme le polonais von Suko, se souvient avoir marché sur une femme sur le pont qui lui accrochait la jambe, mais comme il était porté par la foule, par la presse, il n'a pas pu la relever. Et c'est un souvenir traumatique dont il se souvient dans ses mémoires. Il s'en veut de ne pas avoir sauvé cette femme qui s'était accrochée à sa jambe. Le passage de la Bérézina, oui, est décrit par les mémorialistes d'une façon assez atroce. Et notamment, ils ont un souci de ces femmes et de ces enfants qui restent coincés. On sait qu'il y a eu à peu près 7000 prisonniers après la Bérézina. Et on retrouve des femmes sur les listes de prisonniers qui rentrent en France en 1814. J'en ai retrouvé aux archives de la guerre. Étonnamment, donc, elles sont allées avec les soldats en captivité jusqu'en Sibérie. Alors, la plupart ont dû mourir, mais dans les listes de retour, je retrouve des femmes et des enfants.
Certaines ont été d'ailleurs emprisonnées par les Cosaques et en ont fait des esclaves sexuels.
Oui, Armand Domergue,
l'homme du théâtre.
L'homme du théâtre de Moscou, dans ses mémoires, il parle de sa femme qui a quitté Moscou toute seule avec un bébé. Mais il parle aussi de ces femmes qui ont été kidnappées par les Cosaques, de ces Espagnoles, Françaises, Italiennes, parce que la plupart des cantinières étaient de toutes nationalités dans la Grande Armée. Et il en croise certaines qui sont encore en 1814, les esclaves sexuels des Cosaques, qui n'ont donc pas été libérées ni ramenées en France. Même si le tsar avait dit qu'il allait libérer tous les prisonniers français. Alors les hommes ont été libérés, mais on trouve encore des femmes donc, qui étaient prisonnières de ces Cosaques.
Il faut faire une place aussi dans cette émission consacrée aux femmes qui suivent les soldats, en époque moderne et révolutionnaire et napoléonienne, Marion Trévisy, aux femmes d'officiers, aux femmes de généraux. Il y a un personnage qui est devenu emblématique depuis la pièce de Victorien Sardou et Émile Moreau, qui a eu un grand succès en 1893, qui s'appelait Madame Sans Gêne et qui met en place la maréchale Lefebvre, qui a commencé comme lavandière précisément et qui a été promue avec son mari, donc, qui est devenu duc de Dantzig, c'est ça?
C'est ça.
C'est une interprétation ici par Mistinguett en 1951. Je dis en passant que nous avons un livre récent de Bruno Fulini consacré à Mistinguett qui a montré, on ne le savait guère, qu'elle a été une espionne extrêmement efficace pour la France entre 14 et 18. Femme de guerre, mais qui nous emmènerait un peu loin, de Madame Sans Gêne, dont voici un extrait.
Vous étiez
blanchisseuse.
Oui, madame.
Et je m'en cache pas. Vous voyez, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sottes gens. Et si je parle le jargon du peuple, c'est que j'en suis du peuple.
Sans oublier son passé, il faudrait du moins en oublier les allures, pour ne pas être duchesse avec un langage de poissarde.
J'ai dormi sur la dure avec ces troupiers-là. Plus respectueux que votre majesté pour la femme que je suis, que j'ai roulé du Rhin au Danube, sous la pluie, la neige et les balles, ramassant les blessés, consolant les mourants, fermant les yeux aux morts, et rien qu'en versant la goutte à nos soldats. Moi, simple vivandière, j'ai plus fait pour votre couronne que vous-même, qui n'avez eu que la peine de la ramasser dans leur sang.
Oh, un mot de trop, et que vous regretterez, duchesse.
Oh, pas plus que les autres.
Nous verrons bien. Sortons, mesdames.
Marion Trévisy, c'est une assez efficace évocation de cette rencontre de deux cultures, de comportements divers et de brusques promotions sociales.
Cet extrait est assez intéressant pour montrer la différence sociale entre, en théorie, hein, les cantinières qui sont des femmes du peuple et qui donc ont le langage et le jargon d'une poissarde, comme dit dans cet extrait. La maréchale Lefebvre, elle vient de ce milieu-là puisqu'elle est lavandière, alors que les femmes de grands officiers, normalement, sont des femmes cultivées, qui créent des cours, qui font toute une sociabilité, qui même servent la carrière de leur mari quand elles créent ces petites cours et ces petites fêtes locales. La maréchale Lefebvre, elle ne vient pas du tout de ce milieu-là, donc elle fait un petit peu tâche au milieu de tout ça. Elle me fait penser aussi à Thérèse Figuer. Thérèse Figuer, qui était une combattante, notamment pendant la Grande Armée, et qui avait été reçue par Joséphine de Beauharnais, et dont on s'était moqué. Elle n'est pas restée très longtemps à la cour de Joséphine. Elle a redemandé à retourner aux armées, parce qu'elle se sentait mal à l'aise en tant que femme du peuple dans cette cour autour de Joséphine. Elle était devenue un petit peu comme une bête de foire qu'on venait voir et dont on se moquait. Et c'est un peu le même cas pour Madame Sans Gêne. Et d'ailleurs, Madame Sans Gêne, la pièce, est inspirée par ce personnage de Thérèse Figuer.
Il faut peut-être faire un sort aussi à la duchesse d'Abrantès, la femme de Junot, qui a laissé des mémoires très intéressantes.
Oui, Laure Junot, duchesse d'Abrantès. Alors là, on n'est pas du tout dans le même milieu que Thérèse Figuer et Madame Sans Gêne.
C'est par contraste que je vous la fais évoquer.
Tout à fait. Cette femme a eu quand même une vie assez aventureuse, hein, puisqu'elle a rejoint Junot, notamment en Espagne, au plus mauvais moment.
Elle a failli être enlevée pour rançon ?
Plusieurs fois, par ce qu'elle appelle des brigands espagnols. Donc on est pendant la campagne d'Espagne, l'armée française est vue comme une armée d'occupation.
Guerre très très dure.
Guerre très dure, parce que guerre civile aussi, c'est une guerre de partisans. Une partie des Espagnols ont pris parti pour les Français, l'autre partie non. L'Église a soulevé les masses, les paysans, contre les Français. Il y a eu beaucoup d'atrocités de guerre. Et donc Madame Junot, enceinte, doit accoucher dans une forteresse, la forteresse de Ciudad Rodrigo, protégée par l'armée française, mais elle a toujours craint d'être enlevée. Et elle était une bonne proie pour les brigands, les guerrilleros espagnols, puisqu'ils auraient pu faire échapper, enfin en tout cas échanger Madame Junot contre des prisonniers. Donc elle avait très peur d'être enlevée, à juste titre, hein, parce que trois fois elle a failli être enlevée. Et surtout, elle savait que Napoléon était contre sa présence et donc n'abandonnerait pas, ne lâcherait pas des prisonniers espagnols contre Madame Junot. Donc elle avait très peur de cet enlèvement. Elle décrit ça dans ses mémoires, avec un certain courage quand même.
Ses souvenirs sont d'ailleurs d'excellente qualité, ils se lisent encore très bien.
Ils se lisent très bien, en effet. Ils sont plutôt assez agréables à lire, même s'il y a des envolées un petit peu lyriques et romanesques, parfois assez exagérées. Mais elle décrit bien le quotidien de cette femme qui accouche, qui fait venir sa nourrice de France pour nourrir son bébé. Et la nourrice est tellement frappée par les atrocités de guerre en Espagne qu'elle n'a plus de lait et qu'il faut qu'elle rentre en France très rapidement pour pouvoir nourrir son bébé.
Catégorie de combattante qui décide de s'habiller en homme, parce que ça fait toujours rêver, ça fait beaucoup écrire sur ce point.
Ça fait beaucoup écrire.
C'est un travestissement.
Le travestissement, oui. Ça fait beaucoup écrire certains historiens. Il y a eu quelques travaux sur le sujet, notamment pour les femmes de l'armée révolutionnaire, mais aussi sous l'Ancien Régime. Sylvie Steinberg a écrit sur la confusion des sexes, sur ces femmes qui s'étaient habillée en homme, les cheveux coupés, les seins bandés pour rentrer dans les armées royales. Il y en a eu quelques-unes. On en trouve beaucoup plus sous la Révolution française. Les travaux de Dominique Godinot, Jean-Clément Martin en ont beaucoup parlé. Et j'en trouve quelques-unes épouses de soldats qui suivent leur mari soldat et qui choisissent le métier de soldat. Donc elles se font passer pour des hommes en s'habillant en homme. Leur jeunesse permet de les confondre pour des hommes parce qu'elles peuvent passer pour des jeunes hommes imberbes. Mais très rapidement, quand même, au bout de 8-9 mois, elles sont découvertes. Alors certaines sont gardées dans l'armée révolutionnaire à des postes de logistique, à des postes de charretière, de fourragère, celles qui conduisent les chevaux. Voilà, on les garde malgré le décret d'expulsion des femmes du 30 avril 1793. Une partie des officiers sont contents d'avoir ces femmes sous la main parce qu'elles sont assez aguerries et elles ne posent pas de problème, d'autant plus qu'elles sont mariées et que leur mari est soldat dans le même régiment.
Donc il serait d'ailleurs absurde d'en faire des transgenres.
Aucune source ne nous permet
d'affirmer... C'est pas le chevalier Déon, autrement dit.
Non, c'est pas le chevalier Déon, et c'est un travestissement temporaire, le temps de se faire passer pour un homme. La plupart, malheureusement pour elles, sont découvertes et renvoyées dans leur foyer.
Une fois les femmes rentrées à la maison, si je puis dire, deux questions se posent. À court terme, comment la communauté nationale les traite-t-elle ? Et d'autre part, sur le plus long terme, est-ce qu'elles ont des descendantes qui se sont trouvées au service des armées de façon peut-être plus organisée et plus admise ?
Alors, nous avons malheureusement peu d'informations dans leur dossier de demande de pension sur leur avenir. La plupart tombent dans la misère, n'obtiennent pas de récompense ou de reconnaissance, quelle qu'elle soit. Certaines vont même jusqu'à demander la Légion d'honneur quand même, mais elles ne l'obtiennent pas. Et puis, descendance, oui, elles ont des filles qui font le même métier qu'elles. Alors, ce métier, il est de plus en plus réglementé par l'armée. À partir de 1830, les cantinières deviennent des employées de l'armée. Donc là, elles sont financées, elles ont un salaire de cantinière.
Régularisation, en somme.
Oui, c'est la régularisation, mais en très petit nombre, du coup. On en trouve très peu. Et puis, en 1905, elles disparaissent complètement de l'armée. Les postes de cantinières deviennent des postes de cantiniers. C'est les hommes qui récupèrent leurs postes. Donc il faut attendre après le XXe siècle pour que les femmes reviennent dans l'armée française. Mais à partir de 1905, on n'en trouve plus officiellement dans l'armée.
Mais dès 1914-1918, ce qu'on demande aux infirmières à cet égard, elles réinstallent la proximité. Je pense par exemple au personnage de Madame de Fontanin dans Les Thibauds de Martin Dugard, qui tout à coup trouve pour son énergie, son talent, un champ d'action qui a fait sortir de son quotidien morose.
Les infirmières de 14-18 sont les descendantes des cantinières de la fin du XVIIIe siècle, en effet. Cantinières qui commençaient déjà une partie du soin des soldats avec aucune formation médicale, mais qui essayaient tout de même de sauver la vie des soldats.
Mais il faut attendre la fin du XXe et notre XXIe siècle pour que les armées décident d'accueillir des soldates et des officiers. Le premier général André est resté fameuse. Il y a maintenant un bon pourcentage de femmes sur la volonté politique. Il y a eu un plan lancé par Le Drian en 2014. On avance cette direction.
Et ces femmes de l'armée française actuelle, l'armée française est une des premières à mettre les femmes à des postes de combattantes, donc des postes risqués.
Merci beaucoup, Marion Trévisy, pour cette conversation. Votre livre sur lequel nous l'avons fondé s'appelle « Suiveuse de guerre ». Le mot de suiveuse, c'est vous qui l'avez inventé ou il est utilisé avant vous ?
Alors, je me suis inspirée des camp followers de l'historiographie anglo-saxonne. Et c'est un mot ne me semble pas péjoratif. Elles suivent comme on marche. Et pour moi, c'est un chemin de vie.
Suiveuse de guerre de l'Ancien Régime à l'Empire, paru aux presses universitaires de France, tout récemment, en 2025. Il faut faire aussi un sort, me dites-vous, au livre qui est en anglais, mais qui est accessible à quelques-uns et quelques-unes. Intrepid Women, les femmes intrépides, cantinières and vivandières of the French Army, paru au Indiana University Press en 2000. Ce livre vous a été utile ?
Ce livre m'a été utile, notamment pour l'aspect sociologique, mais il traite des cantinières sur un très large spectre, une très grande période.
Vous étiez préoccupé de la place des femmes dans la guerre depuis déjà quelque temps, puisque en 2018, vous aviez dirigé avec Jean Béchler un ouvrage qui s'appelait « La guerre et les femmes ». Et puis il y en a un autre que je trouve très stimulant, qui mériterait peut-être un jour une émission, qui s'appelle, c'est une co-direction avec Laurent Vissière, « Le feu et la folie, l'irrationnel et la guerre, la fin du Moyen-Âge à 1920 », paru aux excellentes presses universitaires de Rennes en 2018. De quoi s'agit-il ?
C'est un colloque d'historiens de transpériode, du Moyen-Âge au XXe siècle, qui traite en effet de cette place de l'irrationnel en partant des merveilles du Moyen-Âge jusqu'aux prophéties ou au trauma de guerre, au trauma psychologique de la guerre 14-18 notamment.
Vos curiosités, Marion Trévisy, c'était d'abord portées du côté de l'histoire de la famille, puisque je vois que votre thèse s'intitulait « Au cœur de la parenté, oncles et tantes dans la France des Lumières », qui est parue aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne en 2008. Vous ne regrettez pas d'avoir quitté ce champ-là au profit de vos suiveuses ?
Mais les suiveuses ont des familles, donc je reste un petit peu dans l'histoire de la famille quand je m'intéresse aux fonctions maternelles des suiveuses, de ces cantinières qui sont avec leurs enfants. Et j'ai évolué de l'histoire de la famille à l'histoire des femmes et l'histoire de la guerre.
Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission.
Qu'est devenu depuis l'amas de l'ombre jolie des années 16 ? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleus, la taille à l'aise ? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire « sois sage » ? À ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage ? Dans quel village est-elle, loin de sa clientèle, dans quel conterie ? Sous le ciel de quelle ville vit-elle encore agile ou retirée ? Est-elle passée près de moi dans la rue quelquefois, mon cœur en tremble ? A-t-elle dans sa famille, qui sait, une jolie fille qui lui ressemble ? En voyant hier soir au ciné une histoire de ce temps suranné, je me disais qu'à notre âge atomique, il est triste que cette époque devienne comique. Et j'allais au hasard dans les rues, retrouvant des images disparues de mon enfance, de la jeunesse de mon père, de ma mère et aussi de la guerre. Qu'est devenu depuis l'amas de l'ombre jolie des années 16 ? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleus, la taille à l'aise ? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire « sois sage » à ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage ?
Et tandis que nous écoutons la magnifique chanson du grand Charles Trenet, qu'est devenue la Madelon, une chanson de 1960. Je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Jérôme Casamayou, qui nous rejoint pour la première fois à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, le duo fécond de Clary Monac et Emmanuel Lucioni.
Comme le temps passe. passer.